Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté la première heure, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. Nous avons évoqué notamment l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Toujours avec David Douillet, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet dans quelques instants. Nous allons parler de l'Open d'Australie. Faut-il foutre la paix aux Français? Ce sera notre question. 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, est très content du retour de Tony Yoka, le boxeur. Et puis 11h, le bras de fer des GG. C'était l'événement de la semaine, la NBA s'est invitée à Paris, une soirée en grande pompe avec des grandes chaussures. Il y aura une team, et c'était du sport, une team, c'était pas du sport. Et puis une nouvelle séquence dans cette émission. À partir d'aujourd'hui, désormais, il y aura le guet-apens. Oui, c'est très angoissant.
Un débat caché, avec son débat caché.
Un débat
là.
Fantôme va se glisser dans cette émission. Les GG, vous ne savez rien. Vous ne savez pas quel sera ce débat. Il sera un peu plus tard dans cette émission. Restez bien avec nous. Priorité au direct, l'Open d'Australie. Eric Salio, comment ça se passe pour Caroline Garcia?
6-5, Segemoun, ça vous le saviez. 3-2 Garcia dans la deuxième manche. Donc il y a du mieux chez Caroline Garcia qui s'est un peu calmée. Fallait surtout pas qu'elle cède à la panique. Segemoun est peut-être un peu moins précise, mais pour l'instant il n'y a pas de break. Hein. C'est l'Allemande qui est au service. Donc on a atteint l'heure de jeu. Beaucoup trop de déchets encore en retour de service chez la Lyonnaise. Donc 6-1, Segemoun, 3-2 Garcia. Et sur le court central, attention, Novak Djokovic sert pour le gain de la première manche, mais Dimitrov est à 30-40 sur le service du Serbe, donc il a une balle pour débreaker. Et c'est vrai qu'on a vu le Serbe faire la grimace à plusieurs reprises quand il doit aller chercher des balles avec un voilà, des breaks, 5 partout. C'est loin d'être fait pour Novak Djokovic.
Eh bien, c'est parfait, on revient te voir dans quelques instants. Également du ski alpin avec la descente femme, avec Arnaud Souk, notre spécialiste à Cortina d'Ampezzo. Arnaud.
Et oui, sur la célèbre piste Olympia delle Tofane. Et pour l'instant, ça se passe pas très très bien pour les Françaises ou pour la Française qui s'est engagée sur cette piste, Roman Miradoli, qui malheureusement après le passage des 6 premières skieuses est déjà 4e, donc elle ne grimpera pas aujourd'hui sur le podium à Cortina d'Ampezzo. C'est une petite déception pour Roman Miradoli. Ragnhild Mowinckel, pour l'instant la Norvégienne, domine les débats devant Ramona Zibanofer l'Autrichienne et Jasmine Fleury la Suissesse. On attend les passages de Myriam Puckner notamment, encore de Cornelia Wetter, qui font partie des favorites aujourd'hui.
Allez, tout de suite l'Open d'Australie.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Richard Gasquet qui sort Stan Wawrinka. Énorme victoire du français, peut-être la plus belle de sa carrière.
C'était le bon temps.
Bien sûr que c'est dur de passer après une génération où les 4 ont été dans les 10. Le public français attend aussi la suite et espère des grands matchs et des grands joueurs sur les gros tournois. Et honnêtement, c'est ce qu'on espère faire aussi.
Ouais, c'est fait! Retour dans le filet, ne croit pas ses yeux. Kyle Monfils en demi-finale de Roland-Garros.
Joe Wilfried Tsonga est en demi-finale de Roland-Garros. Il en tombe à genoux.
Ah, c'était une grande époque. Qu'est-ce qui s'est passé?
On est une génération française, c'est vrai, qui arrive un peu plus sur le tard que celle d'avant. Chacun son rythme, on n'aura pas non plus tout le temps des années d'or dans le tennis français.
Il me manque tellement.
On est peut-être moins fort pour le moment, mais on s'accroche, on fait de notre mieux.
Après moins d'une semaine, Caroline Garcia est donc la dernière survivante à l'Open d'Australie. Cette nuit, la logique a été respectée. Les deux derniers Français ont été sortis au troisième tour, Benjamin Bonzi et Hugo Humbert, respectivement par Alex de Minaur et Holger Rune, tous les deux balayés en 3-7. Benjamin Bonzi, que vous venez d'entendre dans la production, a également ajouté à propos de l'héritage lourd à porter, ça dépend si vous nous tirez dans les pattes. Comprenez ? Les médias, la musique qui fout les jetons. Et cette question, faut-il foutre la paix aux joueurs français, les laisser tranquilles? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non.
Stephen Brun?
Non.
Denis Charvet?
Non.
Incroyable. David Douillet?
Oui.
Il y a un oui avec David, la sagesse. Avant de débattre, on va retrouver donc notre envoyé spécial en Australie, Eric Salio. Il suit actuellement, Eric, le match de Caroline Garcia, mais tu as pu suivre les deux Français qui n'ont rien pu faire cette nuit.
Oui, absolument. Les deux Français ont connu la défaite à chaque fois en 3-7 contre des joueurs qui étaient mieux classés. Donc c'est pas honteux. Et c'est vrai que Hugo Humbert a totalement raté son match. Il a été assez assez franc en conférence de presse, 6-4, 6-2, 7-6. Et puis Benjamin Bonzi, bon, lui, je pense qu'il n'est pas totalement récupéré de son combat contre Carlo Busta. Il a accroché Dominor pendant une heure. Et malheureusement, au tie-break, il ne fait pas un point. Il prend 7-0 et s'est plié. Après, il a pris 7-6, 6-2, 6-1. Donc voilà. Mais Benjamin Bonzi, quand même, sera lundi 30 janvier, le nouveau numéro 1 français. Alors vous allez me dire, c'est génial pour lui. Et puis vous allez me dire aussi, oui, mais il sera aux alentours de la 42e place mondiale. Et ça, c'est pas acceptable. Enfin, acceptable, bah, c'est pas l'expression. Quand on a connu ce qu'on a connu, c'est vrai que c'est, y a pas de quoi sauter au plafond. Donc voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. N'oublions pas que l'an passé, à pareille époque, Gaël Monfils avait atteint les quarts de finale. À la Monf, il manque terriblement au tennis français. On sait qu'il va rejouer dans peu de temps à la mi-février, mais c'est vrai qu'il y a, il y a des trous. Il y a des trous dans le tamis.
Des trous dans le tamis. Bravo, mon cher Eric Salio.
On a vu que c'est dans le tamis.
Petite précision, break pour Caroline Garcia à l'instant.
Absolument, mais je t'ai lancé chez les garçons, je suis désolé. 4-2 pour Caroline Garcia, ça va beaucoup mieux.
Faut-il
et
laisser
6-5 Dimitrov, et là ça va moins bien pour Djoko.
Ok, parfait, on suit ça avec toi évidemment toute la matinée. Faut-il les laisser tranquilles, nos joueurs français? Faut-il leur foutre la paix? C'est non, Stéphane Morin, pourquoi non?
Bah, déjà, je trouve que ce soit un petit peu cocasse que ce soit Benjamin Bonzi qui lâche cette phrase-là, puisque personne, en dehors des spécialistes, connaissent vraiment son existence à Benjamin Bonzi, donc personne n'a vraiment d'attente sur ses résultats. Pour lui, qui est le spécialiste des tournois Challenger, que ça vienne d'Humbert ou Moutet à la rigueur, qui ont eu des bons résultats très tôt, qu'on soit dur avec eux, oui, Benjamin Bonzi, bon, bah, il veut se faire le protecteur du tennis français, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas foutre la paix aux joueurs français, parce que il est hors de question pour moi d'occulter que le tennis est un sport ultra populaire en France, avec une fédération qui dispose des moyens financiers et d'infrastructures énormes. On accueille l'un des 4 plus grands tournois au monde, on a une vraie culture de tennis, on a eu un vainqueur de Grand Chelem, on a eu des multiples garçons dans les 20 meilleurs joueurs du monde, donc on a le droit d'avoir un niveau d'exigence assez élevé pour nos représentants français. Qu'un pays comme la Suisse puisse être tolérant pour les garçons qui viennent après Federer et Wawrinka, moi j'ai aucun souci là-dessus, hein. 8 millions d'habitants, 2 garçons qui ont gagné 23 grands chelems, forcément l'héritage il est lourd à supporter. Après il faut aussi se rendre compte que autant on a été très sévère, je trouve, et bien plus qu'avec nos représentants actuels sur les 4 mousquetaires, Gasquet, Monfils, Tsonga, Gilles Simon, on a été très sévère avec eux pour se rendre compte que maintenant qu'ils sont plus là, et ben qu'on avait du caviar avec eux et que ben malgré tout ils nous ont
on compare toujours par rapport à une génération antérieure, surtout lorsque celle-ci a brillé. Les mousquetaires Gasquet, Monfils et Tsonga, on les comparait forcément aux vrais mousquetaires, ceux des années 20 qui avaient tout remporté. Et là, quand on compare ceux d'aujourd'hui justement à Tsonga et Gasquet, on a l'impression qu'on régresse à chaque fois entre les générations. Évidemment que quand les anciens n'ont pas eu les résultats avant, c'est exceptionnel. Rappelez-vous quand la bande à Costantini en Inde a commencé à remporter ses premières médailles en 92 à Barcelone et puis champion du monde en 95. Avant eux, il n'y avait rien eu. Donc c'était extraordinaire de voir cette génération briller et commencer à tout gagner. Et maintenant, aujourd'hui, on les compare à ceux d'avant. Donc il y a toujours une comparaison, mais on va pas abandonner notre esprit critique, évidemment. Comme le disait Steve, on a quand même l'une des fédérations les plus riches au monde qui est assise sur un trésor de guerre qui est Roland Garros, qui permet à tous ces jeunes d'avoir des conditions d'entraînement extraordinaire, et donc c'est pas normal qu'une fédération aussi riche que la Fédération Française de Tennis n'arrive pas à avoir des générations sur la longueur, et voilà.
Ok, ce n'est pas normal, donc il ne faut pas les laisser tranquilles, il faut les challenger tout le temps, j'ai bien compris. Il n'est pas d'accord avec vous, David Douillet, pourquoi faut les laisser tranquilles?
Moi, j'ai toujours été surpris qu'on parle d'illustres inconnus qui n'ont pas gagné hein, dans le monde du tennis. Et j'ai toujours fait le comparatif avec le judo. Si on parlait de tous les tournois de judo qui existent et de tous les athlètes judokas qui sont pas encore connus, qui perdent en quart, en demi, en huitième ou quelquefois gagnent, on n'en parle pas d'eux. Et pourtant, on est une grande nation. Je reprends les termes de Stephen. La Fédération Française de Judo est une grande nation
Oui, mais il y a une continuité dans les résultats de la Fédération Française de Judo, oui, David. Depuis 50 ans, vous amenez des champions olympiques tous les 4 ans.
Justement. On ne parle pas de gens qui sont en train d'émerger, qui vont peut-être le devenir, des grands champions. On n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on parle des grands athlètes dans le monde du judo que lorsqu'ils sont champions du monde ou champions olympiques. Sinon, on n'en parle jamais. Dans le tennis, un autre traitement. Pourquoi ? Ben, je vous pose la question, messieurs.
Parce qu'il y a des tournois tout le temps.
Pourquoi on parle de gens qui ne sont pas... Regarde, tu viens de le dire, le numéro 1 français, il est 42e mondial. Bon, ok, très bien, super. 42, pour moi, c'est une température. Il fait très chaud. Mais c'est pas un classement. Voilà, c'est tout. Et donc, ces gens-là, on en parle. Mais pourquoi ils perdent pour l'instant? On en parle, ok, et on les suit une fois qu'ils ont gagné. C'est ce que dit Stephen, et ça, il a raison de dire ça.
Mais sinon, avant, ça sert à rien.
Faut leur foutre la paix. Faut leur foutre la paix.
Ok, on commence à quoi? 20e mondial, dès qu'ils commencent à gagner un,
ça veut dire qu'on parle pas de
dès qu'ils commencent à gagner, dès qu'ils commencent à rentrer dans le top 10, tu vois, tu commences à les suivre. Sinon, ça n'a pas de sens.
Je suis désolé, mais les mecs qui rentrent dans le top 10, on parle pas. Je suis pas sûr qu'on parle d'eux souvent.
Eh ben, on n'en parle pas. Ils méritent pas qu'on en parle. Je suis désolé, voilà.
Il y a de la frustration dans les propos de Bonzi. De toute façon, après, moi, je pense sincèrement qu'il faut en parler, quoi, qu'il faut les bouger, qu'il faut les, faut leur taper mais dessus.
Ça, ah bah oui, t'as vu comment ça marche.
Il y a deux débats. Là, je vous rejoins pas, c'est qu'il y a le débat public et il y a le débat des journalistes. C'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y a le regard des journalistes qui est très exigeant, qui est, mais oui, c'est ce boulot-là qui fait qu'à un moment donné, ben, t'attends toujours d'un joueur.
À part Eric Salio, il y a personne qui parle de Bonzi, en plus.
De devenir un champion, on attend toujours un champion. Et moi, je pense qu'il y a le domaine public, et le public est beaucoup plus, tolérant. Et la vérité, c'est que c'est un problème générationnel. C'est pour ça que ce débat, il m'ennuie tout le temps. Parce que, les générations, on reproche à des générations comme Gasquet et Truc de pas être allé plus haut. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, c'est formidable. Mais pourquoi on attend d'eux d'être allés plus haut alors qu'ils sont peut-être pas capables, tout simplement?
Parce qu'on les a toujours comparés.
Aujourd'hui,
Riner, on l'a comparé à David Douillet.
Mais dans tous les sports, Christophe, dans tous les sports, le rugby, le football, tu compares tout le monde.
Toujours.
Mais oui, mais c'est ça qui est terrible.
C'est pas de leur faute, évidemment.
Oui, évidemment.
Est-ce que vous n'êtes pas posé la question à un moment donné, puisque nos amis, malheureusement, du tennis depuis Yannick Noah, on gagne pas. On gagne plus, en tout cas chez les masculins. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question que de parler toujours de gens qui gagnent pas, ça met pas en fond de tableau une couleur qui est tout le temps grise? Quand même, parce que parle de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, qui perdent en demi, en quart, qui gagnent un tout petit tournoi mineur dans un coin, etc. Il y en a pas un qui gagne un grand chelem. Donc cette coloration journalistique, est-ce que inconsciemment, elle ne touche pas directement ou indirectement les joueurs, ils sont petits.
Je vais pas prendre la défense des journalistes, des journalistes, mais t'es obligé d'avoir un regard quand t'es journaliste par rapport à la qualité, au talent du champion. C'est-à-dire que pourquoi on était frustré? Parce que justement, mon fils ou son gars avait les qualités pour qu'on gagne un grand chelem, qu'ils l'ont pas fait. Mais pour des raisons qui leur sont propres. Qu'elle soit mentale, qu'elle soit ce que tu veux, mais.
Et puis pour les raisons de concurrence, surtout aussi.
Et de concurrence aussi. Mais c'est pas passé loin, mais ils l'ont pas fait. Donc tu peux pas reprocher aux journalistes, à un moment donné, d'être exigeant par rapport au niveau de performance de certains.
Je sais.
Ça, c'est mon sentiment. Hein.
Si tu prends une balance et que tu regardes les reportages positifs ou négatifs par rapport aux résultats dans le monde du tennis, excuse-moi, la balance penche largement du côté du négatif. Est-ce que cette ambiance négative qui est orchestrée, mais très justement, je dis pas que c'est injuste, de par des journalistes qui font leur métier et qui disent, ils perdent, n'instaure pas au fil des ans une espèce d'ambiance grise qui fait que, ça plombe les jeunes générations.
Mais moi, je suis pas d'accord avec moi. Je pense que le vrai champion, s'il écoute rien, il trace sa route. Je pense que c'est mon point de vue.
Faut-il les laisser tranquilles? C'est notre débat. Vous êtes sur RMC, les grandes gueules du sport. Dans quelques instants,
parlons de tennis de table. Si les Français sont pas capables de gagner, on ne parle plus de tennis. Et parlons de ping-pong, parlons de judo, parlons d'autres choses.
Après le tennis, c'est un sport populaire, mais un sport particulier aussi, parce qu'il y a qu'un vainqueur, il y a que quatre énormes tournois qui sont quatre tournois du Grand Chelem, et qu'en général, il y a plus de perdants que de vainqueurs sur un tournoi. Donc oui, maintenant, on est peut-être dans un creux. Je vous rappelle que les États-Unis, depuis Andy Roddick, n'ont pas gagné un Grand Chelem. Et les États-Unis, si on parle de fédération puissante au niveau du tennis et à l'aise financièrement, c'est bien les States.
Et aujourd'hui, les Anglais, les Australiens,
il y a eu un creux. Et aujourd'hui, les Américains, il y a 8 Américains au troisième tour de l'Open d'Australie avec des garçons surprenants comme Shelton, comme Wolf, qui c'est là qu'on découvre. Donc peut-être que Toto Wolf. Et peut-être que la France, ça va arriver aussi. Donc laissons à ces gars garçons-là un peu de temps, mais on est obligé d'avoir un regard critique parce que le tennis,
tu deviens d'accord avec
c'est
moi,
la France.
Stéphane.
Le tennis, c'est la France.
Oui, mais
donc on est obligé d'avoir un regard critique.
Je suis en train de convertir Stephen.
Non, pas du tout.
Laissons-les tranquilles. Laissons-les grandir.
Pas du tout.
Laissez-les tranquilles.
Là, ne pas avoir un Français une nouvelle fois en deuxième semaine,
c'est une catastrophe.
Ça fait tâche.
Ok, Caroline Garcia, il reste quand même une Française dans cet Open d'Australie. C'est son troisième tour. Elle sert pour le set pour égaliser une manche partout, Eric Salio.
Absolument. Après la perte du premier set 6-1, il y a une belle réaction de la Lyonnaise puisqu'elle mène 5-3 30-15. Sigemode est un petit peu moins précise, moins virevoltante, et donc Caro, elle a plus de temps pour mettre son jeu en place. Je voulais juste pour mettre de l'eau à votre moulin, on a calculé, depuis la victoire de Noah, on a disputé 150 tours du Grand Chelem. 154. Voilà, 154 tours de Grand Chelem sans décrocher le pompon. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup.
Et pour aller plus loin sur la stat, depuis 46, 300 tours du Grand Chelem chez les hommes, une victoire française et le reste du monde, les autres.
Mais voilà. Il faut croire que la génération, une génération qui est...
Non, il se barre avec ta stat, c'est pour ça. Mais on peut.
On a fait 1 sur 300 en fait.
Oui, mais Stephen, tu es contradictoire. Tu parles des Américains qui ont eu un problème de générationnel pendant des années et qui repartent. Donc on en revient, problème générationnel.
Oui, sauf qu'avant, ils ont gagné des
grands chelems. D'accord.
Avec Jim Courier.
Et nous, avec les anciens, les 4 mousquetaires et tout, on a gagné il y a très longtemps.
À 7 partout, les grandes gueules.
Ok.
À 7 partout à l'instant.
Vas-y, Eric.
Heureusement qu'il y a les filles.
Là, faut en parler.
Ok, donc ça fait 6-3. Caroline Garcia qui a perdu le premier set. 6-1, on va donc avoir un set décisif, magnifique, dans quelques instants à suivre. Sur RMC, on referme cette page Open d'Australie, mais on reste évidemment avec notre ami Eric Salio. Et on revient dans quelques instants pour un homme heureux. C'est Pierre Amiche, vous le savez, le samedi, le dimanche à 10h30. Là, il est heureux. Pourquoi ? Tony Yoka est de retour. Les GG, vous êtes heureuse aussi ? Oui ou non ? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h28, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux. Attention, dans 10 minutes, ce sera l'heure du guet-apens. C'est une nouveauté dans cette émission, le débat caché, un débat fantôme. Vous n'êtes pas au courant, les GG. Et pourtant, vous allez devoir répondre, vous allez devoir vous prononcer. Vous allez devoir batailler. Ce sera dans 10 minutes. Le guet-apens, restez bien avec nous. La descente, le ski, priorité au direct avec des événements. Ce matin, la descente femme, on en est où, Arnaud Souk ?
12 skieuses sont passées sur la piste Olympiade et les Tofan à Cortina d'Ampezzo. On parlait de la peur tout à l'heure à Kitzbühel chez les hommes. Je ne sais pas si ce sont les chutes successives de Ortlieb et de Goggia qui ont fait peur, et de Souter également qui ont fait peur justement à Chiara Wiedel. Mais en tout cas, elle a choisi de ne pas s'élancer ce matin juste après. Donc voilà, peut-être que la peur a été conseillère. Ilka Stuetsch, la Slovène, est en tête devant une Italienne, Elena Cortoni, et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel. Ça s'est pas très bien passé pour la Française Romane Miradoli, qui pour l'instant pointe en 8e position.
L'Open d'Australie également avec c'est parti pour le 3e set entre Caroline Garcia et l'Allemande Siegmund, Eric Salio.
Ouais, début de set, début de troisième à l'instant, puisque Laura Siegmund est tout sauf bête. Elle a coupé le rythme, elle est partie aux toilettes, donc pour se refaire une beauté. Et donc, je rappelle le score, 6-1 Siegmund, 6-3 pour Caroline Garcia. Et sur le central, balle de 7 pour Dimitrov, elle est sauvée. On est à 7 points partout dans le tie-break entre Novak Djokovic et Grigor Dimitrov.
Ouais, on va suivre ce match avec toi, évidemment. C'est très serré donc dans ce premier set entre Grigor Dimitrov et Novak Djokovic. Tout de suite, il est 10h30, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, pourquoi heureux aujourd'hui ?
Eh bien, cette semaine, je suis un homme heureux parce que cette semaine, et après quasiment 8 mois de silence, Tony Yoka est sorti du trou dans lequel il s'était laissé sombrer. Une sortie éclair pour annoncer son futur combat face à Carlos Takam, et la marmotte la plus costaud du monde est repartie dans son terrier. Il faut dire qu'après sa rude défaite face à Bacolé en mai dernier, l'artiste s'était fait rare, c'est surtout s'était fait muet. Habitué à la lumière, aux honneurs de la presse, au superlatif, le Français avait pris Bacolé la réalité en pleine gueule. Le tank congolais lui a roulé dessus, et lui n'était que le sparring de Tyson Fury. Ça n'est plus un écart qui sépare Yoka du meilleur, mais un gouffre. Alors, rideau, abstinence médiatique étonnante. alors qu'on le voyait partout, des anges de la télé-réalité à Intérieur Sport, d'une interview décalée dans Okapi à sa présence dans Touche pas à mon poste. Tiens, ça te fait un point commun avec lui. C'est fou, hein. Et comme toi, j'y sais, il a tout souvent préféré les paillettes au travail. Et j'ai du mal à plaindre ce boxeur-là, l'enfant du Star System, parce que Yoka est un champion, mais c'est surtout devenu une fable, une histoire que Canal a inventée et qu'on a aimé raconter encore et encore et encore et encore jusqu'à s'en persuader. La conquête, les ambitions de titre assumées à 23 piges mais zéro combat, ses rencontres face à des videurs minables en surpoids, tout ça, eh ben, il le traîne depuis comme un boulet. Oui, il est encore loin du niveau de Fury, Wilder ou Usyk. Mais parce qu'il a perdu, alors il ne serait rien. Un ballon de baudruche dégonflé, une escroquerie enfin démasquée. À chaque combat, pour Tony Yoka, c'est la même histoire, la même musique. Il jouerait sa carrière, son avenir, sa crédibilité, son oseille, son honneur, sa bagnole. Et à chaque combat, il doit faire ce qu'aucun autre boxeur ne doit faire, prouver qu'il n'est pas juste une fraude, qu'il mérite sa place. Mais mince, le mec est champion du monde amateur. Il est champion olympique et on arrive à le siffler. Mais vous savez comment ça marche la boxe ? Yoka, il va pas débarquer au milieu des grands faux, veut dire « Bon machin, t'es gentil, tu te pousses, moi je vais prendre la ceinture. » Une carrière, ça se construit. Vous savez combien de combats il a fallu au Cador pour prendre une ceinture mondiale ? Joey Lewis, peut-être le plus grand boxeur poids lourd de l'histoire, 33 combats. Rocky Marciano, 43. Mike Tyson, 28. Mohamed Ali, 20. Ken Norton, 31. Ruiz, 33. Fury, 25. Yoka n'a disputé que 13 combats en carrière. Alors j'aurais pu ne rien dire, mais je peux pas blairer l'injustice, et là ça me gave. Une victoire c'est normal, parce qu'il affronte des tocards, et une défaite, oh ben voilà, c'est bien la preuve que c'est un as qui sera jamais à la hauteur de vos attentes. Mais vous savez, vous avez déjà pris une droite dans la tronche par un gorille de 130 kilos? Alors moi je suis heureux, heureux parce qu'il va pouvoir remonter sur le ring, parce que c'est là sa place, parce que Tony Yoka est un grand combattant, parce qu'il a un truc, et parce que Virgil Hunter, son entraîneur, a annoncé la couleur. Cette défaite, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Un faux pas, ça peut briser une carrière ou la booster. Moi, j'ai rien contre Carlos Takam. Je vais pas sortir le drapeau tricolore si l'artiste l'emporte. Mais je ferai comme Tony Yoka. Je me murerai dans le silence, bien content d'avoir cassé les gueules et surtout d'avoir fermé des bouches.
Merci beaucoup, Pierre Amiche, pour cet homme heureux avec le retour de Tony Yoka. Les GG, est-ce que vous aussi, vous êtes heureux ? Christophe Cessieux.
Oui.
Oui, heureux ?
Ouais.
David Douillet.
Oui, je suis très heureux de le revoir.
Très heureux même. Stephen Brun.
Oui.
Ok, Denis Charvet.
Oui, bien sûr.
Ok. Je vous sens pas emballé quand même.
Ben oui, il y a un petit nom derrière, mais...
Ok, c'est quoi ton petit nom derrière ?
Ben, parce qu'on est tellement déçus de qu'il n'y arrive pas, quoi. En fait, c'est l'attente était tellement incroyable et on voyait arriver le nouveau Marcel Cerdan, on le voyait tout en haut, et puis tout le monde. Je crois que c'est un peu lui faire offense que de dire que c'est Canal qui l'a fabriqué quand même, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est quand même très grand, qui a été d'un gabarit hors norme, et que voilà, il faut pas non plus dire que c'est pas, moi je pense que c'est quand même un grand champion, que la boxe est difficile parce que t'enfrontes pas souvent les meilleurs et tu fais pas ce que tu veux, on sait pourquoi, à cause des managers et des enjeux financiers, malheureusement, eh ben on sent que qu'il faut tout pour qu'il se remette au combat, qu'il se fasse violence. C'est ça qui me perturbe un peu. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour un garçon comme lui, mais j'aimerais tellement le voir arriver, que tellement arriver au sommet et qu'il fasse taire tout le monde, en fait. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est mitigé.
Moi, je suis en colère contre moi-même parce que je me suis fait pigeonner par Canal Plus et la bande à Hanouna, en fait. Je me suis mis à croire que ça y est, ils nous vendaient. Baba. Là, on n'est pas sur une belle Darka, hein, j'y sais. Ils m'ont vendu.
Pas de mal de mon nouveau
copain. Ils m'ont vendu un mec qui allait marcher sur la boxe mondiale et j'y ai cru. Et je me suis rendu compte que le premier vrai adversaire qui est Bacolé, a remis Tony Yoka sur les pieds sur terre, en fait. Et j'en veux aussi à Tony Yoka parce que je trouve qu'il s'est un petit peu embourgeoisé trop tôt, alors qu'il avait encore rien fait dans ce sport-là.
On a le droit de faire des erreurs, et
mais je n'en veux pas, parce que moi je suis persuadé que c'est un fantastique boxeur et que peut-être ce retour sur terre avec Bacolé, parce qu'il a souffert, il a mangé sévère contre Bacolé, j'espère que cela lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'il se remette au travail, qu'il se fasse mal, parce que la boxe est un sport où tu dois te faire mal avant ton combat, parce que limite les entraînements devraient être plus durs que ton combat.
Tu es sévère, parce que je pense qu'il se fait mal.
Non, parce que assez ses, mal combats d'avant, ses combats d'avant, ils l'ont bercé d'illusions. Ils l'ont bercé d'illusions. Il a jamais souffert sur le ring. Et là, la première souffrance, eh ben, on l'a vu qu'eh ben, il est tombé. Et moi, j'ai envie qu'il réussisse. Et Carlos Takam, c'est un très bon adversaire parce que c'est le passage obligatoire pour aller plus haut. Parce que tous les grands boxeurs sont passés par Takam. Les Chisora, Joshua, Joe Joyce, Povetkin, Parker. Ils sont tous passés par Carlos Takam. Et j'ai envie de penser que c'est peut-être l'ultime chance pour Tony Yoka. Pour la route, pour être champion du monde, il faut qu'il tape Takam parce que deux défaites consécutives, ça ferait tâche.
Encore un tournant dans sa carrière. Il est très heureux de le revoir. Pourquoi, David Douillet?
Parce que moi, j'aime cet athlète, contrairement à vous tous.
J'ai pas dit l'inverse, dis-moi.
Je le savais.
Attention. Hein. J'ai même dit, j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
C'est le gardien de la zone et de l'orphelin.
Je suis mort de rire.
Le défenseur des sportifs.
Non, mais attendez. Je l'ai fait exprès, je voulais voir si vous étiez en forme. Vous êtes en forme.
D'accord.
Non, mais moi, je. Moi, la vraie question, en fait, je me dis. Est-ce que un titre olympique est facile à digérer pour entamer une carrière professionnelle? Et dans mes souvenirs, j'ai Brahim Asloum. Brahim qui est un copain, qui gagne les Jeux en 2000, qui est médaille d'or, et qui après démarre une carrière pro. Et souvenez-vous...
On avait fait le même reproche à Canal à l'époque. Hein.
Voilà, exactement. Avec on construit des combats qui sont un peu protecteurs, mais qui font grandir la tête, etc. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, je me suis fait une religion. Je me dis que quand on passe de la boxe amateur, avec vous la connaissez aussi bien que moi, hein, qui est différent de la boxe pro, il faut un sas de transition pour que l'athlète devienne hyper performant en boxe pro. Et la transformation n'est pas si évidente que ça. Et donc, le fait de protéger, on peut faire un reproche. On dit, ouais, au départ, c'est un peu des combats en bois, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais on est en train de construire un boxeur. Il faut le fabriquer. Il faut l'armer. Il faut lui concevoir une nouvelle armure pour qu'il puisse être le plus efficient possible dans cette catégorie de.
Oui, mais il y a l'environnement aussi.
Mais, oui, il y a l'environnement, etc., etc. Ben mais oui. est-ce que un titre olympique, lorsqu'on est champion olympique, est-ce que c'est un cadeau pour démarrer une carrière professionnelle
David,
ou pas?
Mais regarde, moi, je suis pas si convaincu que ça.
Regardez le cas de Anthony Joshua, précède justement Yoka au titre de champion olympique. Il est champion olympique à Londres en 2012. Il passe pro dans la foulée et trois ans plus tard, après 20 combats, tous gagnés, il est champion du monde. Donc c'est vrai que on a souvent comparé Yoka. Quand on a vu Yoka champion olympique à Rio, on s'est dit ça y est, mais c'est notre Joshua français.
Mais c'était légitime de le penser à cette époque-là.
Oui, mais bien sûr. Ah, attends, il avait dominé, même s'il y a eu ensuite quelques petits déboires et notamment quelques victoires qui ont été contestées pendant son tournoi olympique. Malgré tout, il avait quand même dominé ce tournoi et tout le monde s'attendait, au vu de sa personnalité, au vu de sa boxe, à ce qu'il devienne rapidement champion du monde et qu'il connaisse le même parcours que Joshua. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, c'est pour moi sa dernière chance. C'est-à-dire que c'est pas en battant Takam qu'il va redevenir champion du monde, mais s'il ne bat pas Takam,
mais la route
c'est
passe
terminé.
Par Takam.
Ça
passe
Christophe,
par Takam.
Mais Christophe, on n'est pas crédule. On n'est pas crédule. Takam, c'est bel et bien un combat de reprise. Il a 42 ans, ils ont 12 ans d'écart. Même s'il a
et 14
un CB,
centimètres d'écart.
Takam a toujours eu l'habitude de boxer des grands.
Oui.
Mais il a 42 bras lourds. Attention, les gars. On sait très bien que c'est un combat de reprise. Faut pas être idiot. C'est pas un combat cadeau. Et c'est bien. Ça prouve qu'il a tiré les enseignements de toutes ces dernières années. C'est-à-dire que c'est pas un combat cadeau, mais c'est un excellent choix.
Oui, mais.
Pour être à nouveau sur la route d'un champion.
Le problème.
Et Christophe a raison. Si l'échoue là, c'est la fin.
Mais la vraie interrogation, quand même, avec lui.
C'est finement joué.
Oui, mais finement joué, oui et non.
Tony Charvet.
Oui et non. Je suis désolé. La vraie interrogation, c'est savoir s'il a le niveau, tout simplement. Et souvenez-vous, je crois que c'est son coach qui avait fait quand même quelques griefs contre lui en disant qu'il s'est préparé. Je crois que c'est l'Américain, je ne me souviens plus le nom, qui lui a dit il ne se prépare pas assez, il n'est pas assez.
Pas un bon entourage,
qui sortait trop. Donc je veux dire, à un moment donné, la boxe, c'est une exigence, mais rare. Je veux dire, c'est comme dans les autres sports, comme le cyclisme, mais c'était pas.
On le voit avec Tyson Fury, il n'y a jamais d'excès.
Oui, mais justement, Tyson Fury, sauf qu'il se prépare en conséquence. C'est pas vrai ce que tu dis, Stephen Bansui. Il se met dans une ville pendant 3-4 mois, il s'entraîne comme un fou. Donc c'est pas un bon exemple. Mais je pense que Yoka, pour moi, le vrai, on a tous un doute. Est-ce qu'il peut arriver un jour à être au niveau? On sait qu'il a du talent, mais ça ne suffit pas. On le sait, le mental, c'est tellement.
On nous le dit, il a changé, il a compris. Cette fois-ci. Est-ce que vous y croyez?
Je demande à voir.
Moi, je vais rester sur le ring.
Oui, sur le ring.
Parce que moi, à tous mes coachs, pendant 20 ans, j'ai dit j'ai changé, signez-moi. Finalement, je n'avais pas changé.
Non, mais changer, c'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est tellement compliqué, JC, de changer. David, je trouve que au très haut niveau, tout d'un coup, tu commences une carrière, tout d'un coup, tu es en virage à 180 degrés. Enfin, je veux dire.
Ouais, mais on lui avait peut-être un peu monté la tête. Et là, peut-être qu'on lui a remis les idées en place en lui disant voilà, mon gars, si tu perds encore, c'est terminé. Alors, on abandonne. Là, il sait qu'il a pas
le choix. Oui, mais savoir, c'est une chose. Mais être capable d'eux, c'est pour ça qu'on.
Après, il a une vraie carence, Yoka. C'est qu'il prend pas. Il prend pas les coups et ça se travaille pas le menton et tout ça. Ça c'est pas un truc que tu peux travailler, ça. Il encaisse pas, Yoka, c'est une problématique en poids lourd.
En tout cas, le match,
c'est où il faut que tu encaisses ou alors il faut que tu aies du punch. Ouais. Et pour l'instant, il a ni l'un ni l'autre.
Le mot de la fin, David Douillet.
Non, mais il a été champion olympique, donc la recette, il la connaît. Voilà. Et si la dernière fois il a pris le coup de trop face à Bacolé, moi je pense que le déclic il est arrivé, qu'il a fait une bonne prépa, on n'a pas entendu parler et qu'il va être à nouveau sur le ring. J'en suis certain.
N'oublions pas, il est arrivé blessé, un fracture du nez pour ce combat face à Bacolé, et n'oublions pas aussi qu'il a perdu un an à cause d'une suspension après trois no-shows. Vous vous souvenez, suspension anti-dopage. Donc c'est aussi important de le préciser dans une carrière assez courte tout de même dans le monde professionnel pour Tony Yoka. Merci les copains, on suivra ça. Ce sera le 11 mars prochain, pardonnez-moi, pour ce combat face à
Carlos. Ça sera où, tu le sais ou non?
Takam.
Je ne sais pas encore, mais
je vais chercher ça si j'ai la précision, mais je crois que c'est pas encore connu. Le tennis, où en est Caro Garcia? C'est le troisième tour, il ne reste qu'une Française. Vous le savez, à l'Open d'Australie, Eric Salio.
À 7 partout entre Laura Segemoud et Caroline Garcia. On est au début de la troisième manche et Caroline Garcia avait fait le break d'entrée face à l'Allemande et malheureusement elle lui a rendu le break avec notamment deux doubles fautes qui coûtent très cher. Donc un jeu partout, ça va être crispé et crispant jusqu'au bout, j'ai l'impression, parce que Segemoud évidemment est totalement revenu dans cette partie. Donc un jeu partout, l'Allemande est au service, elle mène 40-15 et puis sur le court sur la Rod Laver Arena, 1-7-0 pour Novak Djokovic, 7-6, qui s'est fait manipuler à la fin du set parce que le set était d'une violence physique assez impressionnante, et 1-0 dans le deuxième pour Djokovic.
10h44, dans quelques instants, c'est le guet-apens. C'est une nouvelle séquence dans les grandes gueules du sport. Vous ne savez pas quel débat nous allons faire. Il va falloir répondre, il va falloir être bon. Aucune préparation. Je compte sur vous, mes GG. Le guet-apens, c'est dans quelques instants sur RMC. C'est une première à la radio française. Je n'ai pas peur de le dire. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport. Le samedi et le dimanche de 9h à midi, on est très heureux d'être avec vous. Si vous êtes au travail, bon courage évidemment. Si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, on vous souhaite quoi? Un bon petit déjeuner évidemment. Régalez-vous avec nous, on vous accompagne toute la matinée jusqu'à midi. Toujours avec David Douillet, Denis Charvet, Stephen Brun, Christophe Cessieux. À partir de 11h, le bras de fer des GG autour de cet événement cette semaine. La NBA était à Paris. Il y aura une team, c'était du sport, une team, c'était pas du sport. Un bel affrontement dans les GG à partir de 11h. Retour au tennis, l'Open d'Australie, Caroline Garcia pour son troisième tour. C'est très serré dans ce troisième set. Eric Salio, on va trembler jusqu'au bout.
Ouais, on va trembler jusqu'au bout parce que Caroline Garcia a du mal à trouver l'ouverture face à cette Allemande. Deux jeux partout dans la troisième manche, je rappelle le scénario. 6-1 Sigmund, là on a eu très peur. Heureusement, il y a eu une belle réaction avec un joli 6-3. Il y avait break d'entrée pour Caroline Garcia, mais elle a commis deux doubles fautes qui ont remis sur les rails Laura Sigmund. Donc 2-2 au troisième et Djokovic 7-6 1 partout. Et Murray avait perdu le premier 6-1 et il est au tie-break du deuxième set. Il est immortel ce mec.
C'est angoissant, c'est une nouveauté dans les grandes gueules du sport, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège, ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont tout vous dire. Pour la première fois à la radio française, un débat caché, un débat mystère. Les grandes gueules du sport se retrouvent comme Stevie Wonder et Benoît Paire, totalement à l'aveugle et sans filet. Le guet-apens du jour, écoutez-moi bien, vous ne savez pas ce que je vous réserve. C'est un week-end de Coupe de France, les 16e de finale avec des affiches de rêve telles que Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, Taon, Nantes, Chambéry, Lyon ou encore les Herbiers, Reims. L'occasion évidemment de réviser votre géographie et de découvrir un énième défenseur boulanger qui a posé une RTT le jour du match. Ah, les petites histoires de Dame Coupe. Les GG, en avez-vous marre des petits poussés? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je m'en fous, c'est ça qu'on dit à 10h45, normalement c'est ça qu'on dit. Je m'en fous pas, non c'est
Est-ce que tu en as marre des petits poussés?
Écoute, ouais, j'en ai un peu ras-le-bol.
Ok, David Douillet.
Moi j'adore.
Tu adores. Stephen Brun.
Non.
Ils n'ont pas préparé ce débat, je préfère dire, le dire. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Tu dis non, ok, c'est peut-être jouer la sécurité de dire non. Denis Charvet.
Ah, j'en ai pas marre, j'adore.
Tu adores les petits poussés? Ouais. Ok, on va voir si tu adores ça dans quelques instants. Christophe Cessieux, sans préparation, tu démarres ce débat.
La Coupe de France, alors évidemment, ça fait partie des marronniers chaque année. Au début de l'année, on a comme ça des petits clubs qui arrivent et on raconte leurs histoires. Alors évidemment, pour nous, c'est journalistes, c'est génial parce que au lieu de raconter les histoires, les sempiternelles histoires du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais, là, tu découvres des histoires. Mais franchement, au niveau de la qualité du jeu, au niveau de l'engouement que ça suscite, je trouve que malheureusement, la Coupe de France, elle est un peu en perte de vitesse, même si les audiences sont bonnes. Enfin, hier soir, par exemple, je crois qu'il y avait quasiment 2 millions de téléspectateurs.
C'était une belle affiche,
devant Marseille-Rennes. Je suis pas convaincu qu'on ait la même chose cet après-midi, d'autant que ça se joue à chaque fois sur des terrains qui ressemblent à des champs de patates. Donc oui, c'est rigolo, mais je pense qu'un week-end, ça suffit. Finalement. Tu vois ce que je veux dire? Un seul week-end avec les belles histoires. Et puis de toute façon, à la fin de l'histoire, on aime retrouver les grosses équipes qui s'affrontent en finale de Coupe de France. L'année dernière, par exemple, moi j'étais ravi qu'il y ait une finale entre Nantes et Nice. C'est pas des petits poussés et c'était pas non plus les clubs habituels. C'était pas le PSG qui gagnait pour la 117e fois. Moi, cette Coupe de France, j'ai du mal aujourd'hui un peu à
t'y intéresser.
Ouais, à m'y intéresser.
Ok, ouais. C'est toujours la même chose. Ouais. Chaque année, tu parlais de marronnier. Début janvier.
Après, le sport, c'est toujours la même chose dans tout.
Notre émission, c'est toujours la même chose aussi. On fait toujours les mêmes débats depuis 4 ans.
Non, mais il y a un problème éditorial.
Non, il n'y a pas
un
problème éditorial.
Est-ce qu'on a fait des débats sur la Coupe de France, là? Et à part celui-là, celui-là.
Mais chaque année, on fait un débat.
Chaque année, on cherche, là, depuis 3 jours. La semaine dernière, j'y sais, bon, tiens, on va ouvrir sur la Coupe de France. On n'a pas trouvé d'histoire parce que, effectivement, c'est des belles histoires.
Ça engorge.
Des trucs qu'il faut parler finalement.
Mais moi, je parlais, c'est le monde amateur, c'est super.
Ah oui, c'est super.
Mais en plus, la Coupe de France, pour moi, c'est le patrimoine, c'est du français. Ça fait partie du patrimoine. On ne touche pas à la Coupe de France.
Tu arrives à t'y intéresser?
Mais bien sûr.
Non, mais sérieusement. Tu vas regarder les matchs ce week-end?
Non, je ne regarde pas tous les matchs.
Ah ben alors, que tu nous racontes?
Mais non,
tu nous dis ça parce que ça fait bien de dire, mais oui, j'aime la Coupe de France.
Mais c'est pas parce que je regarde pas.
Mais t'en as rien à faire de la Coupe de France, mon pauvre Charvet.
Je regarde d'un œil, comment dire?
D'un œil endormi.
Mais c'est toujours, non, mais ça fait toujours, comment dire, t'es toujours admiratif de l'exploit. T'es pas d'accord avec moi? Quand tu vois un exploit de Quevilly à l'époque, ou je sais pas qui, il y en a plein de. Guingamp à l'époque, je me disais, mais ça fait partie de notre histoire. Même Bastia, une époque.
Ah oui. Trinquant, rappelez-vous, Trinquant, coup de tête. Là, c'est la plus belle histoire de la Coupe de France. Trinquant.
Il y a même un film de Jean-Jacques Hano, coup de tête, souviens-toi, sur la Coupe de France.
Ok, Stephen Brun.
En fait, moi, j'aime bien apprendre, Jean-Christophe.
La géographie.
Non, pas du tout. Et la Coupe de France me permet d'apprendre sur des histoires de joueurs. Là, ce matin, je lisais chez nos confrères de l'équipe.
équipe. Ce garçon de 48 ans, qui joue attaquant à Chambéry. J'aime bien découvrir des histoires, j'aime bien apprendre, découvrir des clubs aussi, comment ça fonctionne le monde amateur. Ça me plaît bien. J'ai regardé hier contre Marseille, parce qu'il y avait une histoire derrière ce match avec Mourad Boudjelal qui avait fait monter la sauce. Donc j'ai regardé ce match-là. Après les champs de patates, on arrive à un stade où en général les petits clubs délocalisent les matchs sur des stades un peu plus grands pour accueillir plus de monde.
Ouais, mais tu vois, par exemple, cet après-midi, le match Chambéry-Lyon, je trouve ça dommage que Chambéry soit obligé d'aller jouer dans le stade de Lyon parce qu'ils n'ont pas un stade pour accueillir.
Ils font plus d'argent et c'est important pour eux.
Ils ont
plus
d'argent.
La Coupe de France, ça permet à des clubs amateurs de vivre, de survivre, de faire des recettes et de rêver aussi et de permettre aux supporters, une fois par an, d'un beau parcours. Moi, je trouve que vous êtes un peu rabat-joie, les amis. Une fois par an, on parle de petits clubs qui n'existent pas.
Une fois par an, tu rigoles, quoi.
Un peu plus. Sur lequel, au bout d'un moment, après, ils disparaissent.
Ils mettent le championnat en semaine. Et puis
mais vous voulez quoi? Vous voulez la Ligue 1 que tous les week-ends, vous? C'est ça qui vous intéresse?
Non, mais la Coupe du Monde, on prendrait.
Et on prendrait la Coupe du Monde. Non, tu verrais, parce que ça perd son intérêt.
Non, mais Christophe, tu trouves que ça n'a pas de charme, la Coupe de France?
Bien sûr que ça a du charme.
Mais quand même.
Mais bien sûr que ça a du charme. Mais c'est.
Bon, c'est d'après.
Toujours les mêmes histoires. Ouais, c'est le boulanger.
Non, c'est pas les mêmes histoires. C'est faux.
Elle doit s'élever, doit se lever très tôt le matin, ensuite va à l'entraînement deux fois par semaine.
Il y a toujours des belles histoires.
Mais non, très jolies histoires.
Et puis ça permet de voir si les professionnels sont des vrais radins. Ceux qui laissent pas la recette au club amateur. Là, on est démasqués. On est démasqués, les clubs qui veulent repartir avec l'oseille quand même.
Ok, David Douillet, David contre Goliath, ça te plaît donc?
Ben oui, ça me plaît. L'histoire vieille comme le monde. C'est réjouissant. Et puis, je trouve que ça fait. La L1 est tellement friqué, normé, professionnel, etc. C'est le lien entre l'amateur et le pro, quoi. Moi, j'adore. Voilà. C'est tout. Et ça prouve que du côté amateur, on a un chemin pour arriver vers le pro, voilà. Et ça peut donner la mécanique d'ascension pour des gamins qui peuvent être de Chamailleur, de Plabennec, de je ne sais où, de Cassel ou je ne sais quoi, et de se dire un jour, je peux être dans cette équipe-là, je peux rêver. Et le sport, quand on fait rêver les gens, c'est comme ça qu'on fabrique des champions et des grandes équipes.
Surtout, ça met en lumière le monde amateur. C'est là où, Christophe, je te comprends pas. C'est-à-dire que, regarde la recette de Marseille contre hier, ils ont donné toute la recette à hier, qui a pas un budget conséquent.
Oui, mais c'est ce qui se fait
régulièrement. Oui, non, mais d'accord, mais c'est ça qui est important aussi. Ça fait vivre aussi le monde amateur.
Bien sûr.
Et surtout, ça les met en lumière.
Mais je te demande sentimentalement, est-ce que ça t'intéresse d'allumer ta télé et de voir Grâce Rodez? Voilà, c'est tout.
Oui.
Et on n'a rien contre ces équipes.
Là, vous êtes, je ne vous crois pas une seconde. Je ne pense qu'aucun trois d'entre vous n'allait regarder les matchs de Coupe de France.
Si.
Quoi,
alors,
vas-y.
Dis-moi les rencontres.
Cassel, Paris Saint-Germain, je vais regarder, je te le dis.
Ah, bah oui, ils vont voir le PSG.
Eh ben oui, mais.
C'est ça qui est marrant.
Excuse-moi,
et c'est David Goliath.
J'ai l'info. Oui. Chambéry, c'est eux qui ont demandé à jouer à Lyon pour avoir plus d'argent.
Ça augmente la recette.
Ah bah oui,
évidemment. Oui. Ok, on
va faire Benec Grenoble. Vous allez regarder ça à 18h ce soir?
Celui-là, oui. Non.
Grâce Rodez à la même heure.
Grâce Rodez,
il était où le piège là?
Chamalière Paris FC, tu vas regarder?
Chamalière, ouais, je vais en manger surtout.
Pour répondre à ta question, mon cher David, il n'y a pas de piège. C'est un débat caché, un débat que vous n'avez pas préparé. On vous pose une question et vous êtes sans filet. Vous devez répondre et vous avez plutôt.
Oh, tu parles d'une question. Trouve un truc plus obscur.
Alors moi pour la première je voulais être plutôt sympa avec vous, mais ne t'inquiète pas David, la prochaine fois tu auras l'histoire du saut en longueur depuis l'Antiquité et on va
très bien. Sois tordu comme tu sais bien l'être.
Christophe, il aime que les riches, toi, les grands clubs. Voilà,
en philotennis,
il aime que la haute.
En philotennis, l'Open d'Australie, Caroline Garcia, Eric Salut, on en est où?
Trois jeux partout. Dans la troisième manche, elle a remporté son service assez facilement, la Lyonnaise. Et là, maintenant, c'est là qu'il faut faire l'effort. Il faut piquer le service de Sigemund pour ensuite aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi sereine que lors de la saison dernière. Faut le reconnaître. Mais je pense qu'elle va s'en sortir quand même. Et sur le court, Rod Laver Arena, 7-6-2-1 Djokovic. Et tie-break, 7 points partout entre Andy Murray et Roberto Bautista Agut, 7 points partout dans le tie-break du deuxième set.
Merci Eric, salut, à tout à l'heure. Également du ski avec la descente d'âme. On en est où, Arnaud?
C'est quasiment la fin des 30 meilleurs skieuses de la planète. Il casse tout Wetsch, a priori, va s'imposer aujourd'hui à Cortina d'Ampezzo devant l'italienne Elena Cortoni et la Suissesse Lara Gut-Berami. Les françaises qui n'ont pas brillé pour l'instant, Romane Miradoli 17e et Laura Gaucher qui n'a pas terminé sa manche, donc, et qui n'a pas fini.
Demain, un nouveau guet-apens, évidemment, dans cette émission, nouvelle séquence. Dans les grandes gueules du sport, tout de suite, la NBA. C'était du sport ou pas du sport à Paris cette semaine? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.